Journée du jeudi, c'est le 22 octobre. Il fait 5 degrés, déjà 8h02. Corianne Guenette est en studio en remplacement de Louis-André. Bonjour.
Bonjour, Gaétan.
C'est pas que Louis-André a une faiblesse, il est plutôt au bout du fil du côté de Kitigan Zibi. Louis-André, bonjour.
Oui, salut, Gaétan.
Est-ce que vous êtes déjà sur le territoire de Kitigan Zibi?
Oui, en ce moment, je me retrouve à la station d'essence Crevier au Cazet de Gaz, là. Et puis en ce moment, il y a eu un barrage sur la 105 qui se produit présentement. C'est de l'air plus d'un barrage pacifique, je vous dirais. On a bloqué pour à peu près 5 minutes, là, une dizaine de minutes, je vous dirais, les voitures qui voulaient passer sur la 105. Et maintenant, ça circule tranquillement, mais sûrement. Mais on a des pancartes sur place, on a des drapeaux de Kitigan Zibi, des communautés Anishinaabe qui sont sur place. Et présentement, là, c'est vraiment passer un message à la population de la vallée de la Gatineau pour peut-être mettre au courant, rappeler qu'ils sont toujours présents dans le conflit. Même si la chasse à l'orignal est terminée, eh bien, ça veut pas dire que leur combat, eux, est terminé.
OK, c'est encore concernant le fameux dossier de l'orignal dans la réserve faunique La Vérendrye qui fait en sorte que ce matin, on a fait ce court blocus-là.
Oui, effectivement. Eh bien, en ce moment, on a des pancartes. Arrêter la chasse à l'orignal, moratoire pour l'orignal 2020. C'est vraiment encore une continuité de ce conflit. Et comme je le rappelle, là, même si la chasse est terminée pour eux, leur combat n'est pas terminé. Donc, on veut passer un message. On a bloqué la route. On a fait une petite frousse aux automobilistes, je crois, parce qu'il y avait quand même des autobus d'école, des autobus scolaires, des élèves, des gens qui vont travailler. Mais finalement, là, ça circule tranquillement, mais sûrement.
Louis-André, donc, il y a des manifestations qui sont toujours chaque côté de la route 105 à la hauteur de la station-service Crevier?
Oui, effectivement. Des deux côtés de la rue, là, il y a des gens avec des pancartes et des drapeaux. Aussi, la police locale est présente en support aux manifestants. Les gens ont leur accoutrement traditionnel, ils sont présents. Okay. Et vraiment, c'est de façon pacifique, là, à ce que je comprends bien présentement, ce que j'observe. Le but, c'est pas de provoquer, mais de passer un message de façon pacifique.
Donc, le blocus aura été de courte durée. Maintenant, la circulation est reprise sur la route 105 à cette hauteur-là.
Exactement. Donc, on invite les gens, là, si jamais vous vouliez passer par un autre chemin, eh bien, n'hésitez pas à passer quand même. Leur message a lieu d'être. Et puis, si vous passez par là, eh bien, vous serez juste seulement un citoyen plus averti.
Ben merci, Louis-André. Donc, ça explique un peu là ce petit chaos qu'on a connu un peu plus tôt ce matin à la hauteur de Kitigan Zibi sur la route 105. À plus tard.
À plus tard.
Corianne, au chapitre du bulletin de nouvelles, au niveau de la suite des choses, d'ailleurs, on y va un peu dans une même veine. Louis-André qui s'est entretenu ces dernières heures avec le nouveau ministre délégué aux Affaires autochtones, Yann Lafrenière.
Oui, moins d'une semaine qui s'est écoulée depuis la fin de la saison de chasse. Il y a un nuage surplombe déjà l'ouverture de la pêche au printemps prochain. Les barrages aux abords de la réserve faunique La Vérendrye ayant laissé des traces, aucune personne ne désire revivre cette situation pour une deuxième fois dans la même année. En poste depuis bientôt deux semaines, le nouveau ministre délégué aux Affaires autochtones s'est entretenu avec le service des nouvelles de CHGA afin de faire le point sur la situation. Pour Yann Lafrenière, il est primordial d'en arriver à une entente entre le gouvernement et les communautés Anishinaabe. Toutefois, il considère que le conflit comporte une profondeur qui va au-delà de la chasse à l'orignal. Écoutons le ministre délégué aux Affaires autochtones sur le sujet.
Parce que de part et d'autre, t'as mis les séquelles. Hein. Moi, je regardais ce qui se disait sur les médias sociaux. Il y avait une montée d'intolérance, une montée de racisme. Moi, j'étais inquiet comme ancien policier de voir comment ça se passait sur le terrain. Je me disais qu'il y avait un danger que ça dégénère. Alors, pour toutes ces raisons-là, moi, je veux vraiment régler cette problématique-là en profondeur. Et oui, ça va prendre du temps. Mais de la négociation beaucoup plus profonde que l'enjeu. Oui, on regarde l'enjeu de l'espèce plus profondément. Moi, je pense vraiment à du développement économique, du développement touristique, du développement culturel. Mais on doit le faire ensemble. Et c'est là-dessus que j'ouvrais le jeu, que ça soit beaucoup plus inclusif, mais beaucoup plus large comme négociation.
Pour ce qui est de l'inaction de la sécurité publique, le ministre délégué aux Affaires autochtones déplore les dommages collatéraux qu'ont subis les personnes qui se trouvaient à l'intérieur des barrages des communautés, mais croit qu'une intervention policière n'aurait fait que creuser un plus grand fossé entre Québécois et membres des Premières Nations.
Je ne parlerai pas au nom de la sécurité publique, mais comme vous me lancez comme ancien policier, j'ai de la misère à pas vous répondre en vous disant que effectivement, une situation comme ça, il y a beaucoup de perdants. Et sans justifier chacune des actions ou des inactions sur le terrain, je pense que tous les gens qui vous écoutent aujourd'hui comprennent très bien que l'approche de force n'aurait absolument rien réglé. Aujourd'hui, on parlerait d'autre chose. Je pense qu'on serait enlisé dans un conflit beaucoup plus profond. Alors, sans embarquer dans les tactiques, moi, je voudrais que ce qui m'appartient dans mon rôle de facilitateur, c'est de négocier pour pas qu'on arrive à ça. Parce que quand on arrive à des gestes comme ça, parce que en amont, ben on l'a échappé. Là. On n'a pas été capable de négocier et de se parler.
Le ministre compte bien bénéficier de son expérience afin d'arriver à une entente qui sera bénéfique à long terme pour la région. Selon lui, les Québécois et les communautés autochtones sont séparés depuis trop longtemps sur le plan culturel et économique et qu'il est temps de rejoindre les deux bouts afin de créer un avenir pour un développement commun.
Je pense qu'à la base de ça, il y a quelque chose qui a été mis de côté pendant longtemps. Présentement, on vit côte à côte, mais on doit vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est-à-dire de partager, de faire en sorte qu'on fasse du développement ensemble. Et moi, je pense que c'est ma ligne, la façon que je tiens de négocier. Parce que sinon, ben écoutez, chacune des espèces va y passer. Là, ce sera des négociations sur chacune des espèces. Et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour tout le monde. Certains peuvent voir l'arbre. Moi, je dois voir la forêt au complet. Je dois voir de façon large comment on peut se rapprocher, comment on peut être ensemble.
Le ministre délégué aux Affaires autochtones affirme que les négociations sont en cours et qu'un négociateur a été engagé dans celles-ci. Sans que le secrétariat aux Affaires autochtones soit responsable de compenser les pourvoiries, le ministre affirme que le gouvernement analyse la situation et trouvera une façon d'aider les entreprises qui ont subi des pertes économiques.
Autre sujet, on se déplace à Cayaman qui veut briser l'isolement des aînés.
Oui, mais à chaque fois qu'une municipalité annonce une association avec le projet Nouveaux Horizons qui tente d'améliorer la qualité de vie de nos aînés, les Val-Gatinois s'en réjouissent. C'est maintenant au tour de la municipalité de Cayaman d'embarquer dans le projet, alors qu'elle a déposé 25 000 $ pour l'achat de tablettes électroniques afin de briser l'isolement de ses résidents. Toutefois, cet argent ne sera pas entièrement dédié à l'achat de tablettes. Écoutons Nicolas Mallette, le maire de Cayaman, à le sujet.
On a fait un dépôt de 25 000 pour faire en sorte d'améliorer la qualité de l'eau au complexe municipal, remplacer le puits artésien qui est quand même vieillissant. On parle d'un puits qui date aux alentours de 1988 et aussi pour briser l'isolement de nos personnes aînées. On le voit beaucoup avec la crise de la pandémie, donc ce serait pour faire l'achat de tablettes pour prêter à notre population.
Notons que Lac-Sainte-Marie fait également partie des municipalités qui avaient bénéficié de ce projet.
Il y a trois municipalités qui ont confirmé leur participation à cette entente de service avec grand remous.
Oui, les municipalités de Mont-Cerf-Létain, Bois-Franc et Aumont ont confirmé à la municipalité de Grand Remous qu'ils acceptaient l'entente relative à la fourniture de services d'intervention en désincarcération et de services d'urgence. Ce dernier comprend les sauvetages hors route et le sauvetage sur glace. C'est le service d'incendie de Grand Remous qui aura la responsabilité d'intervenir en situation d'urgence. Les municipalités doivent défrayer des coûts pour avoir accès aux services, comme le mentionne Jocelyne Lirette, mairesse de Grand Remous.
C'est 1 000 $ pour les pinces de décarcération, 500 $ pour le sauvetage hors route, puis 500 $ pour le sauvetage nautique.
Pour la municipalité d'Aumont, il est plus économique d'obtenir le service de Grand Remous car c'est moins coûteux et cela fait économiser de l'argent aux contribuables. Alphée Moreau, maire d'Aumont, indique également que Grand Remous possède l'équipement et l'expertise.
Mais aussi le service hors route, motoneige en hiver, s'il y a quelque chose qui arrive, ben ils sont équipés pour ça, pour des services d'urgence, soit en motoneige, soit aussi en quad, ou soit aussi nautique. De ce côté-là, ils ont les équipements, ils ont la formation.
Il est possible que d'autres municipalités emboîtent le pas. La municipalité de Grand Remous est dans l'attente de réponse.